Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Dès qu'on parle de Web 3.0, de blockchain, de NFT, ça semble être extrêmement technique. Ça l'est. Et en même temps, on ne peut pas ignorer, en 2021 en tout cas, que la technologie modifie profondément la manière dont on interagit les uns avec les autres. C'est le cas aujourd'hui de Facebook, de TikTok, de WhatsApp, des jeux en ligne, etc., etc. Et donc cette conversation que j'ai aujourd'hui avec Luc Jodet, qui est l'un des cofondateurs d'Ariany, avec lequel j'ai eu l'occasion de collaborer, parce que moi-même j'étais l'un des cofondateurs de ce protocole dans la blockchain, on essaye de rendre accessible cette information. C'est quoi le Web3, c'est quoi la blockchain et c'est quoi les NFT? Pourquoi on en parle autant? Pourquoi ça a pris particulièrement dans le monde de l'art? Quelles sont les autres applications? Est-ce qu'il faut investir dans les NFT? C'est tout ça qu'on traite aujourd'hui avec Luc. Je vous invite vraiment à écouter cette conversation que je pense est importante puisque ça va encore une fois avoir des répercussions sur votre vie demain, j'en suis assez certain. Donc je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Luc.
Bonjour Greg.
On va parler d'un sujet complexe, a priori, mais on va essayer de le rendre simple et agréable. On va parler des NFT, mais avant de commencer par les NFT, je voudrais qu'on parle, peut-être qu'on différencie ce qu'on appelle le web 2.0 et le web 3.0 pour que les gens puissent comprendre dans quelle direction on va, puis après on parlera de blockchain, et après on parlera de NFT si ça te va. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est que le web, ce qu'on appelait le web, ce qu'on sait que le web 2, et puis du coup ce qui va nous permettre de comprendre ce que c'est que le web 3?
Bien sûr, c'est vrai quand on parle de NFT, c'est important de parler de ces trois différents webs qui sont vraiment une évolution en fait au cours du temps. Alors pour parler du web 3, il faudra quand même qu'on parle un peu de blockchain, mais déjà parlons du web 1. Le web 1, c'est vraiment le premier web qui a existé, hein, donc celui que même moi, qui suis pas si vieux que ça, ai connu au tout début de mon utilisation d'Internet dans les années 90. C'était vraiment ce web où l'idée était que tu faisais tourner ton serveur, tu codais ton site et tout appartenait. Et vraiment, donc, on allait sur des sites de copains et on se parlait de site à site. Enfin, on surfait de site à site. C'était vraiment une vision décentralisée, très fortement décentralisée de cette infrastructure. Le seul petit problème, c'est que c'était difficile d'accès parce que il fallait avoir des capacités de code, il fallait des capacités de faire tourner un serveur. Et donc, en fait, assez rapidement, au début des années 2000, on a vu émerger des plateformes, notamment les blogs, qui permettaient, en fait, en deux, trois clics, de lancer un blog d'abord, et plus tard, des plateformes comme de social media, comme Facebook.
Flickr. À l'époque, c'était Flickr. Après, il y a eu Instagram.
Bien sûr. Donc, tous ces réseaux sociaux. Donc, le web 1, c'est vraiment où tu fais tout toi-même. Le web 2, en fait, c'est l'arrivée de cette révolution qui donnait accès à tout le monde facilement sans avoir de capacité technique. Le seul problème du web 2, c'est que quand tu allais créer un blog sur Blogger ou que tu créais ton profil sur Facebook, eh bien, tu ne possédais plus tes données, tu ne possédais plus en fait l'infrastructure. L'infrastructure, c'était Blogger ou c'était Facebook qui la possédait. Et donc, tu deviens vraiment tributaire de ce que fait Facebook, comme on le voit aujourd'hui. Et donc, quand il y a des changements de règles, eh bien, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même puisque c'est de toute façon, tu te soumets aux règles de Facebook et pas aux tiennes.
Il y a beaucoup de gens qui souffrent comme ça avec leur compte Instagram, qui se voient leur compte Instagram supprimé ou alors des changements d'algorithme, c'est-à-dire des baisses de visibilité. Et ça, en fait, c'est lié au Web 2, au fait que ce soit des plateformes.
Alors, il y a un exemple très connu sur ça qui est le groupe Linkin Park, qui au tout début des Facebook groupes, de Facebook, avait une page en fait Facebook sur laquelle ils avaient ramené toute leur communauté. Et sur cette page, ils avaient, je crois que c'était 60 millions d'utilisateurs, et vraiment ils utilisaient, ils faisaient pas d'email quoi que ce soit, ils utilisaient ça comme leur principal mode de communication avec leur communauté. Donc quand ils voulaient communiquer avec toute leur communauté, ils balançaient un message sur le groupe et c'était envoyé aux 60 millions de followers. Un jour, Facebook décide que au final, ça nous embête que vous puissiez envoyer à tout le monde, donc on change l'algorithme, et l'algorithme maintenant ne renvoyait qu'à 5 à 10% de leur communauté. Donc il y a que 5 à 10% quand ils envoyaient un message, et que 5 à 10% de leur communauté qui y avait accès. Et pour avoir accès aux 100% de la communauté, je te le donne en 1000, il fallait faire du contenu subventionné, enfin il fallait payer Facebook. Et ça, c'était vraiment l'exemple type de quand tu crées une communauté, alors que c'est toi qui travailles à créer cette communauté, à ramener tout le monde sur ta page, eh bien tu ne la possèdes pas vraiment, c'est en fait Facebook qui te la prête, qui te la loue et pas peu cher. Donc ça, c'est vraiment l'exemple typique des problèmes qu'on a avec le Web 2, enfin qui sont arrivés avec le Web 2 et puis qu'on a très fortement aujourd'hui, où vraiment tu es captif en fait de ces plateformes. Donc pour arriver au Web 3,
exactement.
Le Web 3, c'est l'ambition du Web 3, c'est justement d'avoir quand même des outils qui sont relativement simples, des infrastructures qui sont faites par d'autres personnes, tu n'as pas besoin d'avoir des capacités techniques très très poussées, il faut quand même comprendre un peu comment ça fonctionne, mais l'idée c'est vraiment que ce soit pas nécessairement très difficile d'accès, et que tu n'aies pas besoin de faire tourner ces serveurs, mais que tu sois le vrai propriétaire de tes données. Et alors c'est là où la blockchain rentre en compte, puisque la blockchain, pour le dire assez simplement, c'est une infrastructure qui est décentralisée, c'est-à-dire et où toi, en tant que participant à cette infrastructure, tu participes à la fois à faire tourner l'infrastructure, à la maintenir, et tu es le vrai propriétaire, il n'y a pas d'intermédiaire, de tout ce que tu as, toutes les données que tu as sur la blockchain.
Moi, la manière dont j'explique la blockchain en général, pour les gens qui ne comprennent pas ce que c'est, ce qui est la très grande majorité, et après on pourra aussi se poser la question si c'est nécessaire de comprendre ce que c'est que la blockchain d'ailleurs, mais moi je dis en fait, ce qu'on connaît du web jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la digitalisation de la communication. C'est-à-dire, quand on dit digitalisation de la communication, on pense tout de suite à l'email, mais en réalité, que ce soit l'e-commerce, les réseaux sociaux, tout ce que tu disais avec le Web 2, etc., finalement, c'est de la communication et on l'a digitalisé. Et la blockchain, c'est une autre partie. C'est la digitalisation de la confiance. Donc en fait, ça permet, alors on peut envisager l'échange monétaire, tu vois, typiquement le Bitcoin, mais en fait il y a plein de pans qu'on peut envisager avec la digitalisation de la confiance. Je sais pas si ça résonne chez toi et si tu veux du coup préciser, j'essaye de l'expliquer simplement parce que sinon autrement c'est vrai que on rentre tout de suite dans des explications qui complexes.
C'est ça. Après, pour le rendre un peu plus accessible, je dirais que la blockchain, c'est l'idée que quand on reprend le Web 2, ce qui est important chez Facebook, c'est pas nécessairement l'interface. En fait, l'interface, c'est ce qu'on te donne gratuitement pour que tu aies facilement accès, pour te faire venir. Ce qui a de la valeur chez Facebook, c'est ce qu'ils appellent le social graph, hein, c'est le fait que justement les 60 millions de personnes qui ont cliqué, qui ont dit moi je veux être lié à avoir des informations de Linkin Park. Et donc ce social graph, c'est tout cet arbre de différentes connexions qu'on a avec des gens, avec des groupes, avec des entreprises bien sûr, des marques, et ça, c'est ça qui a de la valeur. Et ça, c'est protégé de très très près par ces plateformes. Ce que te permet en fait la blockchain, c'est de recréer en fait ce social graph et de faire que tu sais que d'une manière donc décentralisée, une espèce d'infrastructure que tout le monde fait tourner, tout le monde participe, il n'y a pas une personne qui la contrôle, puisse exister sans que tu aies un Facebook qui dise finalement moi je te donne accès, je te donne pas accès. Et donc ça, comme tu le disais, ça se réalise de différentes manières. Une des toutes premières applications, ça a été le Bitcoin, et l'idée là, c'était qu'on avait une infrastructure décentralisée qui permettait de recréer une monnaie vraiment pair à pair, comme le billet de banque que tu as dans ton, enfin comme le billet que tu as dans ta poche. Mais sur Internet. Ce que j'aime bien dire souvent, c'est que on a tous des assets digitaux. On dit souvent que le Bitcoin et les tokens sur de la crypto sont des assets digitaux. C'est vrai, mais c'est pas les seuls. tout le monde, en fait, qui nous écoute là, enfin, je pense que la très grande majorité, ont en fait déjà des assets digitaux, puisque sur ton compte en banque, les euros que tu as dessus, c'est des assets digitaux, techniquement. Il n'y a pas un billet de banque derrière physique, c'est juste un enregistrement de 1 et de 0. Sauf que, en fait, ces assets digitaux ces euros que tu as sur ton banque, sur ton compte en banque, tu as l'impression qu'ils t'appartiennent vraiment, mais c'est toujours sous le contrôle de ta banque. Et ta banque peut très bien à un moment te dire « Non, mais attendez là, je ne pouvais pas sortir 10 000 euros comme ça. Il va falloir que vous remplissiez un certain nombre de formulaires, puis peut-être revenez dans deux jours et je vous n'avez pas un accès total. » Ce qu'a permis Bitcoin, c'est de faire exactement la même chose que ton euro sur ton compte en banque, sauf que tu le possèdes vraiment de la même manière que tu possèdes ton billet dans ta poche. Et donc ça, c'est juste sur un asset monétaire, c'est la première application. Mm-hmm. Puis après, il commençait à venir d'autres applications, notamment grâce à une autre blockchain qui avait une vision qui est un peu plus évoluée, on va dire, que Bitcoin sur le côté technique, qui permet de créer une multitude d'assets. Et donc des assets, ça peut être donc des assets financiers, mais ça peut être aussi des assets artistiques ou de jeux. Et c'est là où les NFT justement viennent en jeu.
Alors, effectivement, expliquer que la blockchain, c'est une couche technique, hein, je pense que vous l'aurez compris, c'est une couche basse de technologie, un petit peu comme qu'est-ce qu'on pourrait comparer avec l'email ou Internet. Et en fait, les gens ne savent pas exactement comment ça fonctionne, l'email ou c'est quoi, on pourrait comparer avec le TCP/IP un peu.
Absolument.
Un mot que les gens n'ont jamais entendu, a priori, enfin la majorité. Et en même temps, ils utilisent l'email et Internet tous les jours, donc ils utilisent le TCP/IP, mais ils savent pas comment ça marche.
Tout à fait. Vous utilisez TCP/IP et SMTP tous les jours. Mes parents utilisent TCP/IP et SMTP tous les jours. Ils seront incapables de m'expliquer comment ça marche, mais c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que ça rende le service voulu et que ça le rende d'une manière qui soit accepté par tout le monde et qui soit reconnu par tout le monde. Et donc la blockchain, en fait, c'est un peu pareil. C'est qu'au bout d'un moment, c'est bien de comprendre comment la blockchain fonctionne. Et j'invite quand même tout le monde à regarder un peu le sujet. Je vous promets, c'est passionnant. C'est un peu technique, mais il n'y a pas nécessairement besoin d'aller extrêmement profondément dans la technique. Hein. Il y a juste comprendre la logique du truc déjà, et je pense que c'est déjà génial. Mais je pense vraiment que le futur de la blockchain, c'est qu'en fait, on dira c'est sur Ethereum, et on le voit déjà. On commence à le voir avec les NFT justement. Donc on en reparlera après, mais on dira juste c'est sur Ethereum, et donc c'est bon, j'ai confiance parce que c'est sur Ethereum. Alors il faut faire gaffe parce que peut-être qu'Ethereum change, et donc il faut quand même qu'il y ait des chiens de garde qui gardent, mais il y a quand même beaucoup de gens qui font attention justement à ça, et beaucoup de gens qui sont impliqués dont moi qui font gaffe à ce que Ethereum reste bien décentralisé, mais c'est quelque chose, je pense, que pour la majorité de la population, ils prendront juste le fait que si ton NFT ou ton asset est sur Ethereum, tu peux faire confiance, c'est décentralisé, et tu as toujours cette possibilité de faire passer ces assets librement d'une personne à l'autre.
Alors, du coup, on va parler des NFT, parce que c'est un sujet, en fait, je voulais faire cet épisode parce qu'on en parle beaucoup depuis début 2021, des NFT. C'est pas aussi récent que ça, finalement, c'est un peu plus vieux, puisque Ariani, à l'origine, c'est un NFT, ça date de 2018, donc... Mais est-ce que tu peux nous expliquer d'abord ce que c'est qu'un NFT, et après on va essayer de voir pourquoi on en parle autant, quelles sont les applications, etc., etc.
Alors, qu'est-ce que c'est un NFT? C'est une grande question.
Non-fungible token.
Et comme tu le disais, on a commencé à Ariani, donc fin 2017, on a vraiment lancé le projet, créer les structures en 2018, à l'époque, jusqu'à assez récemment, en fait, on n'utilisait même pas le mot NFT, on utilisait le mot blockchain, parce que NFT, en fait, ça voulait dire rien à personne, enfin ça voulait dire des choses pour des gens de notre écosystème, mais dès que nous on parle avec beaucoup de marques de luxe et de fashion, de mode, et pour ces gens là le NFT ça voulait rien dire jusqu'à il y a très récemment. et donc le NFT, en fait, comme le Bitcoin est une unité monétaire qui représente donc une unité comme un dollar, si tu veux, mais d'une monnaie différente qui a son propre cours, le NFT, c'est une unité qui représente quelque chose qui n'est pas une unité monétaire, une unité fongible, c'est-à-dire pas quelque chose qui... Donc deux NFT ne sont pas nécessairement la même chose. Et donc après, ça peut représenter en fait plein de choses. Le NFT, c'est vraiment... Il faut le voir comme un médium. C'est-à-dire c'est comme une feuille de papier. C'est-à-dire qu'une feuille de papier, ça peut servir à la fois à faire un petit dessin comme j'ai là, qui ne vaut strictement rien. Et donc ton NFT, elle n'a pas de valeur monétaire ou d'échange. La feuille de papier, ça peut aussi servir à faire dessiner un Picasso. Et là, dans ce cas-là, ça peut valoir des dizaines ou des centaines de millions de dollars.
Ou une cale pour une table.
Ça peut aussi faire une cale pour une table, tout à fait. Ou ça peut aussi être un contrat, par exemple. Donc quelque chose qui engage de partie, qui a une valeur légale. et dont le papier en lui-même n'a pas cette importance, mais le fait que ça a été signé, que ça donne des règles, en fait, te permet d'avoir une valeur, puisque ton contrat a une valeur, mais c'est pas nécessairement le NFT en lui-même qui a la valeur, c'est juste que c'est une représentation de ton contrat. Voilà, donc il faut vraiment voir le NFT comme juste un support sur lequel tu peux mettre plein de choses. Et il y a plein d'exemples aujourd'hui.